Alors nous recevons maintenant Bruno Denas, bonjour.
Bonjour Jacques.
Alors vous êtes le médiateur de Radio France, vous recevez donc les remarques que les auditeurs vous font remonter, et notamment sur Secret d'Info. On a donc décidé, une fois par mois, de vous demander de venir nous faire part des commentaires qui ont été postés sur les enquêtes que nous vous proposons. Ce sera donc l'occasion pour la cellule investigation de Radio France et bien de s'expliquer sur ces choix. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux sont autour de cette table. Alors, je vous laisse la parole, Bruno. Vous souhaitez tout d'abord nous interpeller ce que vous m'avez dit sur l'enquête que nous avions diffusée le 2 septembre dernier au sujet de Rifat el-Assad, l'oncle du président syrien qui est réfugié en France. Alors, qu'en ont dit, que vous ont dit les auditeurs?
Alors Jamel, par exemple, nous a écrit « Il y a de quoi rire, la France sait exactement qui possède quoi parmi ses amis étrangers. Les escrocs d'Algérie ont des hôtels particuliers, des appartements au même titre que le roi du Maroc, les dignitaires d'Arabie Saoudite, etc. De l'argent volé au peuple concerné et la France ferme les yeux. » Alors vous laissiez entendre dans votre enquête, il y a bien une complicité politique. Et Annick d'ailleurs vous interroge « Pourquoi la France a-t-elle pu cautionner un tel blanchiment d'argent ? »
Oui, donc ces questions concernent Benoît Colombat. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Puisque c'est vous qui aviez réalisé cette enquête. Alors on passera sur le thème, hein, je vous le laisse Bruno, les escrocs d'Algérie.
Mais
j'entends bien. Mais sur le fond Benoît, alors pourquoi la France a fermé les yeux sur ce personnage ?
La France a fermé les yeux, c'est un fait. Pourquoi ? Selon moi, il y a deux raisons principales. La première, c'est ce qu'on pourrait qualifier la raison d'État. Rifat el-Assad a servi en fait d'intermédiaire au service secret français au moment où la France était visée par une série d'attentats, notamment au Liban dans les années 80. L'accord était clair. On vous protège et en échange, vous stoppez les attentats. C'est ce qui s'est passé. Et un responsable du renseignement français le dit clairement dans notre enquête. Cette protection a été validée au plus haut niveau de l'État, à gauche comme à droite. Et puis, il y a des raisons diplomatiques et commerciales. Rifat el-Assad a ouvert son carnet d'adresses aux intérêts français au Moyen-Orient et il s'est rendu indispensable dans certains gros contrats, comme par exemple dans une vente d'hélicoptères en Arabie Saoudite en 1988. Bref, tout ça, là, politiquement immunisé en quelque sorte jusqu'à ce qu'il soit finalement rattrapé par la justice en 2014.
Alors on peut peut-être ajouter, parce que dans ce que dit Jamel, on dit « il y a de quoi rire, la France sait exactement qui possède quoi parmi ses amis étrangers ». La France peut-être, nos auditeurs pas forcément, et on est aussi là finalement pour révéler des choses pas forcément connues des auditeurs de France Inter, on est aussi là pour ça.
Alors je me tourne d'ailleurs vers vous Jacques Monin, puisque c'est vous qui dirigez le service enquête investigation de Radio France, et plusieurs auditeurs avec un petit côté complotiste s'interrogent comme Christina. Pourquoi cette enquête maintenant ? Et Thierry nous ressort le couplet habituel. Vous êtes à la solde de l'État. Demandons-nous pourquoi cette info sort maintenant ? Sans doute, des opérations militaires à venir seront justifiées par cette info. Alors Jacques, qui vous a téléguidé ?
Alors on va peut-être d'abord répondre à l'assertion. Vous êtes à la solde de l'État. Bon, je suis désolé que vous pensiez ça, mais vous pensez bien, vous imaginez bien que si on était à la solde de l'État, pour reprendre cette expression, on n'aurait pas diffusé l'enquête qu'on a diffusée, notamment sur l'affaire du Modem et de François Bayrou. Vous savez que j'ai reçu moi-même un coup de fil de François Bayrou. Je ne pense pas avoir été complaisant à son égard. Et je voudrais quand même rappeler qu'il était à l'époque garde des Sceaux, ministre de la Justice. Donc, pour le reste, alors on lance des sujets parfois plusieurs mois à l'avance. Donc, il arrive parfois qu'effectivement, un timing fait que certaines informations résonnent avec une actualité, mais ce n'était pas dans notre intention de départ. Notre intention de départ, elle est de creuser une information. Là, en l'occurrence, on peut rappeler l'histoire. Il y a plusieurs années, Benoît, à l'époque, je faisais partie de la direction de la rédaction de France Inter, et on avait une émission qui s'appelait « L'enquête de la rédaction », qui durait 8 minutes, qui était diffusée le dimanche. Et Benoît avait déjà enquêté sur Rifat el-Assad et on s'était dit, tiens, il faudrait qu'on prolonge ce sujet. Et par ailleurs, il y avait en l'occurrence un élément nouveau qui était ce soupçon de pillage archéologique. Donc, il était légitime aussi qu'on diffuse cette enquête à ce moment-là parce qu'il y avait un nouvel élément qui apparaissait.
Alors, une semaine plus tard, vous creusiez, peut-on dire, le sujet des mines et des forages. Une enquête menée par Anne Brunel après la décision de Nicolas Hulot et du gouvernement de ne plus délivrer de permis de prospection. Alors, beaucoup de réactions d'auditeurs, la plupart estimant, comme Françoise, que nous devrions revoir notre modèle énergétique ou, comme Jules, qu'il faudrait développer enfin, et d'ailleurs, vous le disiez au terme de votre enquête, un véritable recyclage de tous nos déchets. Alors, d'autres auditeurs vous reprochent de vous être attaqué à des sociétés dont on a besoin. Pour Jean-Marc, par exemple, arrêtez de toujours condamner les entreprises, proposez donc de supprimer l'essence pour se déplacer ou le gaz pour se chauffer et vous déclencherez une révolution.
Bon, Bon, alors là, juste un mot, et puis après, je laisserai la parole à Anne. Bonjour Anne.
Bonjour Jacques, bonjour à tous.
Bon, juste un mot pour dire qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels il est difficile d'enquêter parce que ce sont par nature des sujets clivants qui engagent des questions idéologiques ou de choix de société. Et là, on est dedans. Je veux dire, il y a d'autres sujets, par exemple l'enquête de Sylvain Tronchet sur Areva et les centrales nucléaires, la Forge du Creusot, on en a déjà parlé. Elle était un peu du même ordre, c'est-à-dire qu'on peut être tenté de ramener ça à un débat pour ou contre le nucléaire, comme pour ou contre l'extraction des hydrocarbures. Ce n'est pas notre propos. Notre propos, c'est vraiment d'exposer des faits en essayant de sortir de ce débat purement idéologique. Voilà. Maintenant, Anne, pour répondre à ce que vient de soulever
Jean-Marc, notamment.
Bruno. Alors, Bruno, Jean-Marc, à travers Bruno, vous vous attaquez à des entreprises qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l'économie ?
Alors, tous ces sujets environnementaux, sociétaux, sujets de santé, sujets de mode de vie, de société, sont des sujets clivants et qui, lorsqu'on essaye d'en faire un état des lieux, d'en faire une exposition des motifs pour lesquels telle entreprise souhaite exploiter ou pourquoi le gouvernement, à certains moments, a vu les choses avec bienveillance en 2012, à l'époque où on parlait de redressement productif, par exemple. Dès l'instant où on aborde ça pour essayer de faire l'état des lieux, donner la parole à chacun, forcément, ceux qui, dans le parc des auditeurs ou des internautes qui nous lisent, qui nous écoutent, ont plutôt une option d'une couleur ou d'une autre.
D'un côté ou de l'autre.
Voilà, ils ne vont la plupart du temps retenir que ce qui va alimenter leur désagrément. Donc, il ne s'agit pas là, si vous voulez, d'attaquer une entreprise, puisque pour l'essentiel, les entreprises en question, qu'elles soient extractrices de pétrole, qu'elles soient extractrices de métaux, donc quand on parle des mines, ont eu très largement la parole, précisément pour expliquer quelles étaient les raisons pour lesquelles, dans un pays développé comme la France, il était considéré comme nécessaire de relancer l'activité. Relancer l'activité sur les hydrocarbures parce que la consommation énergétique va croissant. Et en face, aussi, exposer les raisons pour lesquelles il faut arriver à réfléchir à d'autres modèles, soit à réduire cette dépense énergétique, soit à avoir recours à d'autres ressources énergétiques, comme le gaz, par exemple, dont il était question dans cette enquête, considéré et défendu comme une énergie de transition, par exemple.
Alors passons au 16 septembre, où là vous vous intéressiez aux dérives du Conseil économique, social et environnemental, une enquête de Sylvain Tronchet, qui a suscité plus de réactions d'ailleurs que de questions. Il y a les auditeurs qui s'insurgent contre ces pantouflards, comme Gilles appelle les membres de cette institution. « Je commence à saturer », ajoute-t-il, « de ce genre de petits arrangements à tous les étages qui risquent bien un jour d'amener au pouvoir des illuminés qui surferont sur la vague des tous pourris ». Étienne nous écrit « Ce n'est pas le réformer qu'il faut, c'est le supprimer. Cela ferait économiser beaucoup d'argent et serait un avertissement pour les autres chambres. Moins d'absentéisme, moins de triche, moins de salaires mirobolants. » Par ailleurs, d'autres auditeurs trouvent, Sylvain Tronchet, que vous avez visé les syndicats. Vincent nous écrit « Pourquoi cette info sort-elle maintenant et dans quel but ? Il y a longtemps que le système dure, comme par hasard, une manière de discréditer les syndicats et de leur faire perdre toute crédibilité. »
Bon, alors juste un mot en préalable, avant que Sylvain ne réponde. La question de la date qui est la même qui se posait tout à l'heure pour Rifat el-Assad. Il y a un discours à Versailles. Il y a le président de la République qui souligne qu'il faut réformer trois assemblées institutionnelles. On se demande laquelle est la troisième. Il se trouve que c'est le Conseil économique et social. Qui sait comment ça fonctionne à part les initiés ? Ben voilà, il était légitime qu'on aille y voir. On a pris un peu le temps pour le faire, mais c'est tout. Il n'y a pas d'autre calendrier, pas d'autre agenda,
pas
d'autre
complot
derrière ça. Après, effectivement, on trouve des choses. Et ça pose la question des syndicats, comme du patronat d'ailleurs. Alors Sylvain, vous êtes anti-syndicat ?
Absolument pas. Alors, je peux comprendre
la réaction,
effectivement. D'un autre côté, on peut considérer que les conflits entre le gouvernement et les syndicats, on va en avoir sur les mois, voire les années à venir. Ça voudrait dire donc qu'on ne pourrait plus faire d'enquête qui, d'une manière ou d'une autre, viendrait concerner les syndicats. Ce serait quand même un peu léger. Il y avait effectivement peut-être un télescopage parce qu'on était en plein front syndical contre la loi travail, mais comme l'a dit Jacques, Emmanuel Macron prononce son discours le 3 juillet. Il faut un mois, sensiblement, un gros mois pour fabriquer ce genre d'enquête. J'ai pris quelques vacances aussi cet été. Voilà, elle sort à la rentrée.
Et vous y avez droit, et ce n'est pas les syndicats qui diront le contraire.
Mais voilà, elle sort à la rentrée. Ensuite, effectivement, il y a au sein du Conseil économique et social une influence des syndicats, des pratiques qui profite d'une manière ou d'une autre à des syndicats que nous avons démontré. On n'était pas les premiers d'ailleurs à le faire, pour être très honnête.
Et puis si on regarde l'équilibre de l'enquête, on a également parlé du cas de Laurence Parisot, donc la question du patronat est également, mais chacun voit midi à sa porte, c'est un classique.
Ça a toujours... Alors d'ailleurs, il faut noter la réaction d'un syndicaliste, un membre du Conseil économique, social et environnemental, Gérard Aschieri, représentant de la FSU, et lui il reconnaît que votre enquête contient des choses exactes et soulève de vrais sujets, nous dit-il, comme l'absentéisme, encore qu'il y ait matière à discussion, précise-t-il. Et il ajoute, en revanche, pourquoi ne pas avoir parlé de l'avis du Conseil sur les travailleurs détachés qui inspire largement Emmanuel Macron, ou celui sur le climat, le numérique, etc.
Ben non, justement, Sylvain en a parlé de cet avis-là. Le deuxième peut-être, mais pas le premier.
Ah non, oui, alors il faut peut-être replacer les choses dans leur contexte. L'idée était que la plupart des rapports que produit ce Conseil économique, social et environnemental reste lettre morte. Et c'est un reproche qui lui est souvent fait. Là encore, d'autres avant nous l'ont fait, la Cour des comptes, hein, notamment. On ne peut pas dire en revanche, évidemment, que tous ces travaux soient nuls et non avenus. Et ce rapport en particulier sur les travailleurs détachés, il est évoqué dans l'enquête. Il n'en reste pas moins qu'il y a une réalité, c'est que la majorité des rapports que produit aujourd'hui le Conseil économique, social et environnemental sont des rapports qui n'ont absolument aucune conséquence. Et c'est dû notamment au fait, et on le démontre de manière très claire, que le gouvernement ne pose pas de questions à cette instance qui est censée la conseiller. Donc tout n'est pas de sa responsabilité, mais c'est un fait.
On en reste là, Bruno ?
On en reste là.
Bon, alors on vous retrouve fin octobre pour la deuxième. J'en profite pour vous encourager, vous, nos auditeurs, plus que jamais, donc à poster vos commentaires sur le site, pourquoi pas, du médiateur, médiateur.radiofrance.fr, ou sur la page, on l'a évoqué, Facebook de Secret d'Info. Allez, rester avec nous dans quelques instants. Autre question qu'on n'aurait pas imaginé se poser, la France a-t-elle cherché à vendre la bombe atomique à l'Argentine ?